Nous sommes le 6 septembre, c'est-à-dire que nous sommes aux journées Chouannes, à Chiré-en-Montreuil. C'est une fête qui se déroule tous les ans le premier dimanche de septembre, une fête organisée par nos amis de diffusion de la pensée française, dont le but est de répandre des livres, et surtout des livres qui ne sont malheureusement édités et diffusés nulle part ailleurs. Donc c'est avec plaisir que je reçois aujourd'hui, pour mon histoire au quotidien, émission mensuelle de Radio Silence, le patron de DPF, Jean Ogui, et je vais lui poser quelques questions. Alors Monsieur Ogui, pouvez-vous me dire depuis quand, me faire un rapide historique bien sûr, de votre organisation, de votre maison, de votre sympathique maison?
Les débuts de la maison remontent à 1966. Mais il y avait eu un avant 1966. Il existait à Poitiers une équipe qui s'est engagée dans le combat pour l'Algérie française et qui, voyant que tout était perdu, a décidé de se reconvertir. Bon, après de nombreuses discussions, la reconversion s'est faite dans un syndicat étudiant. À l'époque, c'était la Fédération nationale des étudiants de France, la FNEF, qui s'opposait à l'UNEF. Ce syndicat avait une fédération à Poitiers, créée donc par notre équipe, et se battait contre l'UNEF et toute la gauche. À partir de ça, je suis arrivé dans cette équipe et on a lancé des activités. Alors il y a eu un journal étudiant, Poitiers Université, qui a été un des records de toute la période, puisque ce journal étudiant est paru mensuellement pendant tous les mois de l'année universitaire, donc 9 mois par an, pendant 14 ans. C'était un journal de 8 pages. Ce n'était pas du tout une feuille de chou renéotypée. C'était un vrai journal imprimé et il vivait de la publicité des commerçants de Poitiers. Je reconnais que ça serait beaucoup plus difficile de faire ça maintenant, puisque les petits journaux gratuits que vous connaissez ont peu à peu pomper la finance des commerçants et il n'y en a plus pour les organes militants qui pouvaient exister à l'époque. Il y a eu une première activité, donc ce journal. Après, la Corpo de droit des étudiants de Poitiers avait lancé un service de librairie en accord avec la Corpo de droit des étudiants de Paris. On avait accès à une librairie parisienne. Et on pouvait, avec le papier en tête de cette librairie, aller acheter des livres avec les remises d'étudiants qu'on revendait sur place à Poitiers et qui nous permettaient de vendre à des prix intéressants pour les étudiants, des ouvrages. Ce qui m'a donc appris le métier du livre, puisque j'ai commencé par des éditeurs avec lesquels je ne travaille plus beaucoup maintenant, mais c'était les Puces, c'était Dalloz, c'était toutes les grandes maisons de droit surtout. Puis peu à peu, après on s'est étendu, on a fait aussi du livre scientifique, on a fait du livre littéraire, etc. J'ai donc appris le métier sur le tas par cette librairie étudiante, et j'ai appris le métier de journaliste de la partie de nos revues par le journal Poitiers Université. C'est ça qui a été le noyau de départ. Je faisais à l'époque des études de sciences économiques. Sciences économiques commençaient à l'époque à être beaucoup plus scientifiques. J'avais fait un bac mathélème. Et il a été pour moi un jour obligé de choisir. Il y avait les activités militantes, il y avait mes études. En troisième année, ça devenait de plus en plus dur. J'étais obligé de redoubler. Et puis quand j'ai redoublé, je ne mettais plus les pieds en fac. J'allais à Chiré-en-Montreuil, où le châtelain du visage nous avait laissé une école libre pour vendre des livres qui étaient au début très peu nombreux, puisque je crois que les premiers mois de l'activité en 66, nous avions 10 livres sur une étagère. C'est donc une activité, une toute petite activité étudiante, militante, qui a été gérée avec continuité et qui s'est développée. Le début a été très long. C'est une leçon que je donne d'ailleurs un peu à tous les jeunes qui veulent faire quelque chose. On ne fait jamais l'économie du temps. Il ne faut pas croire que lorsqu'on se lance dans un commerce, dans une activité, on va réussir en 3 mois ou en 6 mois. Il faut quand même se donner les moyens de durer. Moi, j'ai commencé en 66, j'ai pris mes premiers salariés en 70.
Oui, d'autant que j'ai l'impression que vous n'aviez pas de capital.
Aucun capital, non. C'était tout, soit des livres prêtés par des éditeurs amis. J'ai travaillé d'ailleurs avec trois éditeurs amis au départ. C'était Pierre Lemaire, qui à l'époque n'était pas Teki, mais qui s'appelait l'édition Saint-Michel. C'était M. Whitman, un vieil éditeur d'Action française, qui éditait sous le nom du Fuseau ou Histoire et d'Art. Et c'était M. Sorlot, des Nouvelles Éditions Latines. C'est eux qui ont accepté de faire confiance à un étudiant qui n'avait pas d'argent et qui lui ont prêté des livres au départ et que je réglais une fois qu'ils étaient vendus. Ça a été l'amorce de l'activité.
Oui, tout à fait. C'est très bien, d'ailleurs. Alors, comment est-ce que cette activité s'est développée au point de devenir ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire une entreprise avec une dizaine de salariés?
On a atteint 18, mais la crise de la lecture que nous subissons comme tous les libraires nous pousse actuellement à freiner un petit peu et à ne plus miser sur une expansion continuelle, mais à plutôt consolider ce qui existe, oui. Parce qu'on a eu quand même d'énormes difficultés pour une raison que j'ai déjà exposée X fois, mais pas sur votre radio, c'est que les gros lecteurs qui nous ont fait vivre pendant 40 ans disparaissent peu à peu. Et qu'il y a un remplacement extrêmement difficile dans les jeunes générations. Je vais résumer ça pour être clair et pour faire bien comprendre notre problème. Quand on vendait à un gros lecteur 10 livres par trimestre en une seule commande, c'était complètement différent de recevoir 10 commandes d'un livre.
Oui,
au niveau des frais publicitaires, au niveau des frais administratifs, à tous les points de vue. Et on a tendance actuellement, alors peut-être que politiquement c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on touche plus de monde, mais économiquement ça nous pose des problèmes énormes parce qu'on a des gens qui n'achètent qu'un ou deux livres. Autrefois, je m'amuse en disant ça, mais je disais que autrefois la bibliothèque dans une maison, c'était la piscine actuelle. Maintenant, on met l'argent sur la piscine, sur les matériels vidéo, sur les matériels informatiques, sur tout ça. Et puis le livre, ça devient secondaire. Il y a de moins en moins de bibliothèques entretenues, de bibliothèques privées.
Alors, il faut quand même bien préciser pour nos auditeurs que DPF, ce n'est pas une librairie ordinaire, c'est une librairie par correspondance. Il y a bien sûr une librairie du Ken.
On a une antenne à Paris,
mais sans ça, l'essentiel de vos ventes se fait par correspondance.
Ça, oui.
Donc il faut... Quand on a envie d'avoir un livre, il faut simplement écrire à Chiré-en-Montreuil le code postal.
Oui. 86-190, Chiré-en-Montreuil, il vaut mieux mettre boîte postale numéro 1, parce que maintenant, avec la centralisation des dépôts de PTT, quand les adresses ne sont pas bien mises, on risque des pertes de courrier. Il faut être très prudent maintenant sur ce problème-là. N'hésitez pas à donner votre adresse complète. Il faut mettre je ne parle pas pour moi, pour tout le monde. Il faut mettre le numéro d'escalier quand vous êtes dans un immeuble. Il faut mettre tous les renseignements. Exactement. Sinon, vous avez beaucoup de pertes de courrier.
Exactement. Alors, actuellement, donc vous vendez à peu près combien de livres par an, grosso modo?
Alors ça, je n'ai jamais compté. Moi, je peux dire qu'on a 10 000 titres. On a 10 000 titres à notre catalogue et la moyenne actuelle est d'une centaine de colis par jour ouvrable.
Par jour ouvrable.
Qui partent d'ici. Alors, bien entendu, au moment de décembre, ça peut atteindre 250-300 colis.
En plein été, on peut en
avoir que 30 ou 40. Hein.
Oui,
c'est une moyenne annuelle.
100 par jour, c'est déjà très bien.
Et qui maintenant est sûr, parce qu'autrefois, on la disait un petit peu comme ça... approximativement, maintenant avec les relevés informatiques des PTT et tout, on a des informations beaucoup plus certaines. On sait exactement nos envois, nos quantités de colis et tout. Hein.
Tout à fait. Alors, j'ai l'impression qu'un de vos problèmes aussi, ce sont les remises faites par les libraires, enfin par les éditeurs.
Par les éditeurs, c'est un problème dans le sens, si vous voulez, que nous faisons du travail de promotion, nous faisons des catalogues. Et que si dans la règle professionnelle, un éditeur fait tout ce qu'il peut pour que son livre ou ses livres se vendent par tous les canaux, de toute façon, tout remonte à lui. Quand nous faisons de la publicité avec des catalogues, on sait qu'il y a un certain nombre de ventes qui nous échappent, qui partent chez des libraires, d'autres libraires qui échappent complètement. Notre vocation n'est pas de faire ce travail-là. Alors en échange, une bonne partie des éditeurs nous accordent des remises de diffuseurs, c'est-à-dire des remises plus fortes que celles qu'on donne habituellement à un libraire.
Oui.
Mais c'est pas complet, c'est pas général. Comme on veut avoir un catalogue assez exhaustif de la droite catholique, on se retrouve quelquefois à vendre des livres où on travaille à perte. C'est une de grosses difficultés parce que, Siret a la réputation d'être la maison où on trouve à peu près tout, mais il y a un certain nombre de ces livres qu'on a sur lesquels on travaille à perte. Et ça, c'est une grosse difficulté.
Oui, d'accord. D'accord. Et alors, quels sont vos projets d'avenir? Parce que c'est ça qui est intéressant. Ben, en particulier vis-à-vis d'Internet et tout ça.
Nos projets d'avenir, si vous voulez, moi, le problème, c'est que je travaille depuis plus de 45 ans. J'ai d'abord à trouver une succession. C'est difficile, trouver quelqu'un qui soit passionné du livre, qui ait le sens du commerce, qui ait le sens des relations dans nos milieux. Vous savez que nous sommes très divisés, les milieux politiques, les milieux monarchistes, les milieux religieux. Toutes les tendances un peu utilisent nos services et bien entendu on subit des quantités de pression pour essayer de nous entraîner dans un sens ou dans un autre. C'est très difficile, donc il faut quand même trouver quelqu'un qui soit à la hauteur de tout ça. Il y a le problème de la succession au niveau capital, parce que la maison maintenant, elle a un stock énorme, ce qui financièrement n'est pas nul. Il y a tout ça. Bon, je crois que nous allons trouver une solution. C'est en cours de discussion, ça mettra peut-être un an, deux ans ou trois ans, mais je pense que sur ce plan-là, j'espère bien que la maison pourra continuer. Après, il y a le problème de la crise de la lecture dont j'ai parlé, qui fait qu'effectivement, on voit le nombre de livres baisser, les correspondants achètent moins, Internet, bon, c'est très beau, tout le monde me dit « vous allez vendre beaucoup ». C'est un moyen technique, mais je n'ai pas l'impression, quand je discute avec des confrères ou autres, que ça rapporte énormément. Nous, on a mis sur le site Livre Rare Book une sélection de 8000 ou 9000 livres d'occasion. Alors, c'est des occasions relatives, ça peut être aussi, par exemple, des livres qui, en manifestation, sont tombés par terre, ont été écornés et tout, des livres ayant des défauts qu'on vend donc à un prix. C'est tous les livres qu'on a pu récupérer en 45 ans d'activité. Il y en avait plein nos greniers, bon ben, peu à peu, on les sort et c'est la seule chose qu'on a mis en route valablement. Il suffit d'aller donc sur Livre Rare Book, vous avez la première page qui apparaît, c'est une liste de 600 libraires indépendants. Je préfère donc cette formule de vente au Grand Trust parce que je trouve que c'est beaucoup plus sain. Vous avez 600 libraires, 600 bouquinistes de province et de Paris qui sont fédérés dans un ensemble et qui éditent un catalogue sur lequel il y a, je crois, maintenant 3 millions de titres. Donc c'est la première chose vraiment au point. C'est très long, hein, mettre 9000 livres sur un catalogue Internet, on y a passé des centaines d'heures. Hein, oui. Parce que si on veut que ça soit bien fait, qu'il n'y ait pas d'erreur, que les descriptions du livre soient au point, qu'on rajoute les petits compléments, parce qu'il y a un certain nombre de livres, c'est un nom d'auteur, un titre qui ne veut rien dire, un auteur inconnu, il faut quand même mettre un mot pour faire savoir ce qu'il y a dans l'ouvrage, c'est très long. Alors la deuxième phase, ce sera de mettre notre catalogue des 10 000 références dont j'ai parlé, de les mettre sur un catalogue Internet.
Oui.
On va le faire.
Ça quand à peu près?
Je ne sais pas encore, on travaille dessus.
Vous travaillez dessus?
On travaille, on a une base informatique chez nous qu'on est en train d'alimenter, de notices, de tout ça, mais c'est là aussi, je dis, c'est des centaines d'heures.
Oui, 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 tout à fait.
Les grosses maisons qui ont lancé ces énormes catalogues avaient des finances leur permettant de faire travailler des équipes de secrétaires pendant des mois, qui fait ça en complément de son boulot. Oui. Donc c'est lent, c'est pas aussi rapide que tout le monde voudrait. Mais je précise quand même que notre bureau de Paris du Ken Diffusion a un petit site sur Internet, il suffit de taper du Ken Diffusion et vous le trouverez. Sur ce petit site, on n'a pas grand-chose, mais on a au moins la possibilité de télécharger le catalogue général qu'on avait édité en 2007. Bon, là aussi, on travaille pour qu'au moins ce catalogue général, sans commentaire, puisse être remis régulièrement sur ce site, actualisé. Ça risque de se faire assez rapidement dans les deux ou trois mois.
Mais oui.
C'est quand même énorme d'avoir un catalogue imprimé, donc c'est notre catalogue sur papier que certains auditeurs peuvent connaître, mais on peut chercher dedans, par le système des recherches dans le catalogue, vous tapez n'importe quel terme, vous tapez Salazar ou Lénine, et vous allez avoir tous les livres, toutes les références qui parlent de Salazar ou de Lénine tout de suite. Donc oui, ça permet de faire de la recherche dans ce catalogue.
Oui, d'accord.
Sinon, feuilleter un catalogue qui fait, je crois, 250 ou 260 pages et de 10 000 références, c'est quand même rébarbatif, c'est long. Hein.
Tout à fait.
Internet apporte, là.
Tout à fait.
Alors bon, ben, les prix peuvent être changés, et il peut y avoir des livres qui sont épuisés entre-temps, et puis il y a des nouvelles références qui n'y sont pas. Mais ça, je veux dire, on va essayer de le mettre assez vite.
Eh bien, écoutez, M. Guy, je vous remercie. J'encourage mes auditeurs à acheter, évidemment, à Diffusion de la pensée française, car il faut absolument soutenir cette excellente organisation. Ça a été le fruit, comme vous l'avez dit, de 40 ans de travail. C'est un outil indispensable qui permet aux auteurs de pouvoir écrire et de pouvoir être diffusés. Et j'en sais quelque chose, personnellement. Car je peux dire que mon dernier ouvrage concernant la condamnation de l'Action française, si DPF n'avait pas été derrière, je ne sais pas comment je l'aurais vendu. Alors écoutez, chers auditeurs, merci et à bientôt, et soutenez si possible DPF.
Merci beaucoup.
Monsieur Lugan, vous êtes connu comme africaniste, je voudrais savoir pourquoi vous venez ici tous les ans à Chiré-en-Montreuil. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous attendez de Chiray? Qu'y trouvez-vous?
Tous les ans, pendant des années, je suis venu tous les ans, et là, ça faisait à peu près 10 ans que je n'étais pas venu. Je suis ravi de me retrouver ici, parce que, disons, toutes les chapelles se trouvent rassemblées, la famille au sens large se trouve rassemblée, et surtout, nous sommes en présence des dernières personnes aimant la lecture. Et nous sommes en contact avec de véritables lecteurs.
Très bien. Et vos livres, je crois, votre dernier livre en particulier sur l'histoire de l'Afrique marche très bien.
C'est un livre qui marche très bien et qui est... c'est un énorme livre qui... Oui. 1400 pages, qui m'a demandé, c'est une vie de travail africain, d'autant plus qu'en dehors de la nouvelle revue d'histoire et de Radio Courtoisie et de 3 journaux de la famille, aucun article concernant ce livre n'a été publié dans la grande presse, ni Valeurs Actuelles, ni Spectacle du Monde, ni Figaro Magazine.
Je dirais presque que c'est normal, dans l'état actuel des choses.
On voit surtout les grandes fautes professionnelles des journalistes, oui. Et tant pis pour eux, ils n'ont pas compris, et les libraires non plus, que la diffusion de livres se fait par des organismes comme Chiré-en-Montreuil, par ces réseaux.
Ça reste limité à nos amis.
Oui.
Vous devriez être diffusé par des grands réseaux de diffusion,
oui,
et dans toutes les librairies.
Oui, mais le livre.
Et d'histoire.
Oui, mais le livre se vend très bien, puisque nous sommes au troisième tirage.
C'est formidable.
Donc c'est formidable pour un gros livre qui est difficile à lire, qui est un livre sans concession, car c'est un livre quand même qui pas de spécialiste, mais qui demande quand même.
C'est-à-dire que vous avez tiré à combien, toi, avec ce troisième
tirage? Plusieurs milliers.
Plusieurs milliers. C'est très bien.
Et nous sommes au troisième tirage. Sans aucune publicité dans la presse, c'est extraordinaire. Ouais. Et je dois dire, je suis ravi, parce qu'on peut vraiment tourner le dos à ces butors de la sous-culture médiatique.
C'est très bien, j'en suis très heureux.
Voilà.
Merci de votre interview.
Merci.
Cher Roger Hollande, pourquoi venez-vous ici tous les ans à Chiré-en-Montreuil, à la fête Journée Chouane?
Mais parce que je viens chez des gens qui partagent mes idées, que j'essaye, dans la mesure du possible, de les aider, parce que je sais que les affaires ne sont jamais très faciles. Alors, je suis avant tout un militant politique qui se bat pour l'avenir du pays, et je suis aux côtés des gens qui se battent pour cet avenir.
Merci beaucoup. Je sais que, effectivement, votre dernier livre, L'homme qui faisait se battre les Français entre eux, cartonne pas mal actuellement.
Oui, il se vend énormément bien. C'est un livre qui cartonne en effet, parce que j'avais commencé à faire ce livre pour attaquer De Gaulle sur le problème de l'Algérie et du Sahara. Et puis quand j'ai commencé à écrire, en tapant dans mes archives et dans tous les documents que j'avais une vingtaine de cartons de documents et d'archives pour écrire ce livre, je me suis aperçu en définitive que si je l'attaquais sur le problème de l'Algérie et du Sahara, il n'y avait aucune raison que je ne l'attaque pas sur tout le restant, puisque je me suis aperçu que tout le restant était de la même eau exactement, oui. Et que ce type, toute sa vie, n'avait pensé qu'à lui avant de penser à la France, quoi qu'on en dise et quoi que la légende dise.
Très bien. je vous donne 100 fois raison. Merci et bon succès, plein succès.
Merci.